Hey, t'as entendu parler de ça?
Non, fais voir. Waouh, faut en savoir plus.
Radio Maurice présente...
Vite, vite, dépêche-toi, ça a commencé.
Elle est où ma chronique? Tiens, c'est mon interview.
Et qui fait la technique?
Moi.
5, 4, 3, 2, 1. En direct, le live du collège.
Le live du collège.
L'émission des affamés.
T'es sûre?
Bah oui, parce que tu sais, quand on prépare, c'est juste avant la cantine et...
L'émission des affamés d'infos, bien sûr.
Et de reportages, de micro-trottoirs.
Garantie sans fake news.
Parce que l'info, c'est nous qui la faisons.
Pour chaque émission, on interroge le monde qui nous entoure.
À gratte-ciel et au-delà.
Et on change de thématique.
De quoi on va parler cette fois-ci?
De manga.
De jeux vidéo.
De guerre.
Non, je sais.
Bonjour et bienvenue sur le direct de Radio Maurice. Dans ce direct, nous allons vous parler d'écologie à travers des chroniques, des interviews et tout de suite, la météo en direct de 2050.
Bonjour, nous allons vous parler de la météo du jour.
Attention, grand événement à Paris. Aujourd'hui, vous pourrez observer la Tour Eiffel fondre sous vos yeux avec 44,3 degrés.
À Marseille, pour ce qui n'est pas encore enfoui sous l'eau, il fait 42,9 degrés.
Génial ! À Lyon, il n'y a plus d'eau dans le Rhône. Nous allons enfin pouvoir construire une autoroute avec 42,3 degrés.
Miracle à Bordeaux ! La recette du vin chaud devient très simple. Servez-le dans un verre, mettez-le au soleil environ 10 minutes et dégustez !
Le saviez-vous ? Le collège Maurice Leroux à Villeurbanne est devenu une piscine. Maillot de bain obligatoire. Madame Fourneau, la plus ancienne des profs, n'a plus besoin de se déplacer pour ses activités sportives.
En Corse, après l'incendie de la semaine dernière, pour les trois arbres qui restent, il fait 43,9 degrés.
C'était la météo du 23 décembre 2050. Bon hiver à tous!
Et n'oubliez pas les petits gestes du quotidien. Casquette et crème solaire.
Après ce bulletin météo, parlons du seul continent dont on ne parle pas en histoire géo, le septième continent, aussi appelé continent de plastique. Paola et Augustin vont vous en parler plus en détail.
Aujourd'hui, parlons du septième continent. Le septième continent, aussi appelé vortex de plastique, se situe au nord-est de l'océan Pacifique. Sacs, bouteilles, emballages, filets et autres déchets se sont agglutinés dans ces eaux jadis paradisiaques.
Les déchets sont composés de 90% de plastique. Vous imaginez? Ce sont les précipitations et le vent qui ont apporté ces millions de tonnes de détritus utilisés et jetés par l'homme.
Les scientifiques estiment que le septième continent a une surface de 3,5 millions de kilomètres carrés, soit 6 fois la France.
C'est énorme!
Il a été découvert en 1997 par l'océanographe américain Charles Moore.
Lors d'une enquête, les chercheurs ont pu identifier 232 objets. Ces objets proviennent majoritairement du Japon. 33,6% suivis par la Corée du Sud, puis par les États-Unis, Taïwan et enfin le Canada.
À eux seuls, ces 5 pays représentent plus de 92% des objets identifiables par les scientifiques.
Mais c'est gigantesque!
Alors, quelles sont les conséquences pour nos chers amis les animaux?
Finalement, toute la faune et la flore subissent cette pollution. Nous aussi d'ailleurs, car tous les animaux marins mangent du plastique et nous, nous mangeons tous les animaux.
On s'est rendu à la ZAC des gratte-ciel. ZAC, ça veut dire zone à construire. Comme tous les immeubles ont été détruits, la ville de Villeurbanne a lancé un appel à projet pour remplir le vide. Cette zone permet d'expérimenter, d'envisager de nouvelles manières de consommer, de s'amuser, de se rencontrer. Le collectif d'associations META a remporté l'appel à projet. Ce sont eux qui ont, par exemple, installé les containers.
Il y a un chantier et on voit une longue allée avec sur la droite des containers et un mur avec plein de graffitis. Il y a les gratte-ciel en face et vraiment tout en face, il y a la mairie. Et là, du coup, on va arriver à l'endroit où il y a l'association META.
marche.
Nous sommes rentrés à l'intérieur du site.
On entre dans quelque chose de chelou.
C'est assez sombre et on entre, en fait, on arrive directement à la cuisine.
Oh, on dirait un bar, il y a des dessins partout, il y a des bancs.
Donc là, nous sommes dans le lieu d'une sorte de maison et on va interroger notre première personne qui est d'accord.
Moi, je m'appelle Stanislas Geiger. Je fais partie d'une des associations de l'association Meta, qui est un regroupement. Nous, on est plutôt sur une partie construction. On essaye de construire avec les gens et de manière raisonnée, avec du réemploi, par exemple. Et dans Meta, en tant que bénévole, je suis coordinateur de projet. C'est-à-dire que je récupère les demandes, je traite les mails et je vois si on arrive à caler les plannings avec toute l'équipe. Pour s'il y a besoin d'occuper la salle, et ben, il faut pas que ça tombe en même temps. Et du coup, nous, on s'est positionné sur un lieu où on pourrait accueillir diverses sortes d'activités, notamment les associations. C'est-à-dire que si vous avez un groupe ou une association qui veut faire partie du lieu, qui a besoin d'expérimenter quelque chose, qui veut faire un atelier, théâtre, danse ou n'importe quoi, nous, on est là pour accueillir ces activités-là. Ceux qui veulent viennent participer. C'est un truc un peu collaboratif. L'année dernière, il y avait des concerts un peu de temps en temps. Il y en a qui ont entendu ?
Oui.
Ok. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà construit un petit peu ici ? Il y en a qui ont déjà touché une visseuse, qui ont déjà coupé un bout de bois ou... Ah ben on a une idée du prochain atelier alors.
Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça ? Qu'est-ce que vous aimez faire dans l'association ?
Alors, moi je suis architecte à la base. Donc ce qui m'intéresse moi c'est les questions urbaines. Comment on construit la ville de demain et comment on la construit un peu différemment ? Nous, on essaye de sortir des schémas conventionnels, de ce qui se passe d'habitude, parce qu'on pense qu'au niveau de la temporalité, au niveau de l'utilisation des matériaux, au niveau de comment c'est fait, c'est pas encore en adéquation avec une pensée écologique de la construction. La construction, c'est quand même un des plus gros domaines où il y a beaucoup, beaucoup de pollution. On utilise beaucoup, beaucoup de béton, par exemple, et le béton, ça coûte très cher en énergie et en carbone à la production. Donc nous, on est encore sur des échelles, on expérimente, on essaye des choses pour faire bouger un peu les codes, pour avoir une approche un peu plus écologique là-dedans. On travaille avec le bois, on travaille avec des matériaux de réemploi, donc des matériaux qui partent à la poubelle, et on essaye de reconstruire avec. Le réemploi, soit il y a des choses qui partent à la benne, et nous on les récupère directement, soit il y a des filières qui sont en train de se monter parce que c'est pas si ancien, pour récupérer tout ce qui est démonté sur les autres bâtiments, parce qu'ici on construit, mais il y a plein d'autres bâtiments où on démolit. Maintenant, on essaye plutôt de déconstruire ces filières-là, elles récupèrent les matériaux pour être ensuite redistribuées sur d'autres projets de construction. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout jeter à la poubelle, on n'est pas obligé d'utiliser une porte comme une porte après, elle peut servir de table, on peut tout décliner. Mais ici, par exemple, on a les containers. Ça, les containers, c'est quelque chose qui, à la fin, quand ils ont fini de transporter des marchandises, eh ben, ils les potentiellement jettent. Alors, ils ne les jettent pas parce qu'il y a derrière, il y a un modèle économique, ils les revendent pour le métal ou pour en faire d'autres choses. Et nous, on a choisi d'en faire ça, par exemple. Le bois, ici, il est neuf, mais quand on l'a acheté, on en avait besoin de neuf parce qu'on avait besoin de beaucoup de quantité. Mais quand on démolira ici, quand on déconstruira ici, on sait qu'on va réutiliser tout le bois qu'on a utilisé ici. Et à l'intérieur des containers, il y a plusieurs types de matériaux qui sont des choses qui partaient à la benne, comme du contreplaqué, etc.
Avant de partir, on a demandé à Stanislas quel était son lieu préféré.
Voilà mon petit endroit préféré. Quand même prendre un petit peu de hauteur et avoir la vue sur ces beaux gratte-ciels.
On est sur la terrasse de Meta. On a une vue sur les gratte-ciels et sur la ZAC. Et il fait froid.
On a des retours des riverains qui sont moins contents parce qu'on met de la musique. Et après, on a le retour, c'est que nous, on travaille sur place. Et ça, c'est un peu important pour nous. C'est que dès la construction, on était là. Et on a beaucoup de gens qui nous ont demandé « Mais qu'est-ce que vous faites ici ?» Et nous, c'est ce qu'on cherche, le contact. Parce que nous, on vient s'imposer ici. Voilà, on pose notre bâtiment et on dit « On fait ça ». Mais il faut aussi qu'on puisse être intégré par les gens. Il faut aussi qu'on puisse rencontrer les gens, leur dire ce qu'on fait, ce qu'on propose, pourquoi on le propose. Et je pense que ça, pour nous, on est content, c'est qu'on a des gens qu'on a l'habitude de voir maintenant, qui habitent autour, etc. Et qui font un petit peu partie du projet, quoi. Parce que tous les jours, ils sont avec nous, quoi. Maintenant, j'ai hâte de savoir si on arrive à respecter les objectifs du début, c'est à trouver une suite pour ce projet-là et à accueillir encore plus de monde. Ça, c'est les deux objectifs, c'est accueillir plus de monde et trouver une suite pour ce projet-là.
Pourquoi il y a des tags là-bas sur les murs et même aussi à l'entrée ?
Ouais, alors il y a des tags partout. C'est un lieu qui est un peu identifié pour ça, ici. C'est une association qui s'appelle La Coulure, qui depuis 15 ans, je crois, ils ont fêté leurs 15 ans cette année. Ils refont tous les murs ici. C'est la ville qui leur donne les autorisations, etc. Et il faut intervenir plein de graffeurs qui sont confirmés ou débutants. Et tous les ans, ils repeignent tous les murs ici. Il y a eu une année océan, l'année dernière c'était thème jungle. Et même nous, nos containers là-bas au bout ont un petit peu été peints.
Je serai mort avant la Terre. Pourquoi la sauver ? Pour les générations futures.
Demain s'ouvre au pied de biche.
Protéger la planète, c'est notre devoir. Et c'est pas n'importe quel devoir.
Tous ensemble, chacun peut faire un geste.
Et au collège, on pourrait améliorer le parking à trottinette et rajouter des racks à vélo.
Nos arbres, on les aime. T'en coupes un, on te coupe.
Manger mieux pour la planète.
J'ai peur pour ma planète.
Plus d'écologie pour mon pays.
Un humain, un animal, c'est ainsi que nous habitons le monde.
Ce glacier, 1000 ans en arrière, c'était un monstre.
Madame Valex, professeure de mathématiques au collège, est venue à notre rencontre pour nous parler de son projet.
Bonjour, je suis journaliste à Radio Maurice et aujourd'hui je vais interviewer Madame Valex, qui était il y a peu professeure au collège Maurice Leroux.
Bonjour.
Que faites-vous maintenant ?
Alors, je fais plein de choses à la fois, mais en gros je m'interroge sur justement la transition écologique et ensuite tout ce qui est en lien avec les solidarités, l'économie solidaire circulaire. Et puis je me mets en même temps dans des associations pour faire du bénévolat en lien justement avec le réemploi, comme vous avez pu entendre juste avant, ou de la réparation, notamment de l'électroménager.
Vous êtes bien dans une association appelée Solidarité Afrique ?
Oui, tout à fait. Tu veux que je t'en parle ? Tu la connais ?
Pas vraiment.
Pas vraiment ? Donc c'est une association qui est vraiment pas très loin. Vers la place des Maisons Neuves. Et c'est une association un peu comme les Emmaüs où on récolte des dons. Et ensuite, avec les bénévoles et les salariés, on essaye de voir ce que l'on peut remettre en vente. Et parmi les fonds que l'on peut récolter, notamment tout ce qui est axé sur les jouets, ces fonds-là ensuite sont reversés dans des associations locales en Afrique, notamment Afrique de l'Ouest, pour des projets humanitaires.
Pourquoi ce nom Solidarité Afrique ?
Eh bien, justement, un peu comme pour Emmaüs, il y a beaucoup de solidarité. On compte sur les dons des personnes. Et si les dons sont fonctionnels ou réparables, on peut du coup les revendre. Et ensuite, Afrique, puisque justement, ça permet de, une partie des dons, enfin des recettes qui vont avec, permettent de financer des actions en Afrique. Mais ce n'est pas nous, Français, qui allons faire l'action. C'est vraiment donner vraiment des moyens financiers à des actions locales qui sont faites par des gens sur place.
D'accord. Quels sont vos projets pour la suite ?
Bonne question. Pour la suite, je m'interroge toujours sur comment est-ce que je peux mettre des actions en lien justement avec la transition écologique et l'économie solidaire et circulaire, ce que je fais en fait en ce moment. Et je m'interroge un petit peu tous les jours quand je vais faire de la réparation d'électroménager, comment est-ce que je pourrais éventuellement l'intégrer à des cours de maths.
Pourquoi avez-vous pris la voie de l'écologie au lieu de la consommation ?
Ah ben justement, parce qu'en fait, la consommation, surconsommation, c'est bien ce qui fait le plus mal à la Terre. Là, la question est intéressante. J'avoue que même au niveau du collège, il y a plein de moments où on se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'on utilise ce truc-là alors qu'en fait, on n'en a pas forcément besoin ? Donc la consommation, on en a au quotidien. Des choses qu'on consomme, des biens qu'on consomme et dont on n'aurait pas besoin. Donc c'est vrai que quand on parle de sobriété énergétique, c'est souvent mis un petit peu en mode « Oh là là, on nous demande à chaque fois d'être sobre et de faire vraiment comme si on n'avait rien. » Il ne s'agit pas de ça, il s'agit vraiment déjà dans un premier temps de se poser la question « Est-ce que j'en ai vraiment besoin ?» Là, ce matin, par exemple, tu vois, j'étais à Solidarité Afrique, j'ai passé deux heures et demie à désosser intégralement un vélo d'appartement qui ne fonctionnait plus. Et là, on se dit, bon, est-ce que vraiment la personne elle en avait besoin ? En tout cas, bon, moi, j'ai appris du coup à désosser un vélo d'appartement. Et c'était pas facile, mais en tout cas, au moins, on lui donne une autre vie, même s'il fonctionne plus, en revendant les métaux qui peuvent ensuite être réutilisés, et les métaux, les plastiques, etc., qui vont avec.
D'accord. Auriez-vous un message à faire passer ?
Eh bien, j'aurais plein de messages. Déjà, par rapport à ce que tu viens de me dire concernant la consommation et la surconsommation, toujours se poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que c'est juste un effet de mode ? Et puis, penser plus de manière solidaire. Si vous avez la possibilité de vous mettre dans des actions bénévoles aussi, ça peut être super intéressant.
Merci pour cette interview. Grâce à vous, peut-être que des collégiens, des lycéens et des adultes ont changé d'opinion sur l'écologie et essayeront de protéger la planète et l'humanité qui vit dessus.
J'espère. Merci Sacha.
Radio Maurice en direct.
Bonjour, je vais vous présenter ce que les célébrités d'hier, d'aujourd'hui et de demain font au quotidien pour lutter contre le dérèglement climatique ou font pour sensibiliser les autres à la lutte contre le climat changeant. Tout d'abord, dans le passé, on sait que les stars faisaient absolument n'importe quoi, n'ayant aucune conscience de l'impact de leurs actes. D'ailleurs, comme le montre le film Babylone, sorti mercredi dernier, de Damien Chazelle, qui montre tous les excès des célébrités pendant les années 20. Actuellement, il y a un peu de tout. Des célébrités qui ne font attention à rien ou des stars qui s'engagent énormément. Je vais vous parler de Leonardo DiCaprio qui lui s'engage. Leonardo est né en 1974 et s'est fait connaître grâce au film Titanic en 1998. En 2007, il coproduit un film, La 11e heure, qui est un documentaire écologique sur les dangers du dérèglement climatique. En 2014, il est nommé messager de la paix pour le climat par le secrétaire général des Nations Unies de l'époque, Ban Ki-moon. Au quotidien, il roule dans une voiture électrique. Il se chauffe à l'énergie solaire et a fait installer des panneaux photovoltaïques sur le toit de son appartement new-yorkais. Voilà une célébrité qui met son argent à bon escient. Et enfin, dans le futur, on peut espérer que toutes les célébrités feront des efforts écologiques, tels que Leonardo DiCaprio, Julia Roberts ou Greta Thunberg le font aujourd'hui. C'est en montrant l'exemple que le reste de l'humanité suivra.
C'est un film qui a beaucoup fait parler de lui, Avatar, la voix de l'eau. Ce film est engagé, mais laissons César et Soren nous en parler.
Avatar 2, la voix de l'eau, est un film de science-fiction. On y retrouve Jacques Sully, alias Toro Macto et Netieli, les personnages principaux de l'histoire. Ils ont fondé une famille et font tout pour rester aussi soudés que possible.
Mais une ancienne menace refait surface. Jake va devoir mener une guerre difficile contre les humains, bien qu'il essaye de l'éviter. Avec toute sa famille, ils sont donc contraints de quitter leur foyer et d'aller se réfugier dans les différentes régions encore mystérieuses de Pandora. Et si 3h12 de film, ça ne vous avait pas suffi, ne vous inquiétez pas, James Cameron a déjà 9 heures de film pour l'Avatar 3.
Je vais vous parler de la chasse aux Tulkuns. Les Tulkuns sont les plus gros animaux de Pandora, la planète des avatars. Les Tulkuns sont comme de très grosses baleines.
Ils sont chassés par les humains pour un précieux liquide qui est sécrété dans leur crâne. Cette substance coûte 80 millions de dollars le litre, soit 73 500 000 euros. Je ne connais pas grand monde qui a 80 millions de dollars.
Tom Cruise peut s'en acheter un litre, mais seulement un.
Cela montre que ces humains sont avides et n'en ont rien à faire du gaspillage. Peut-être même qu'ils n'en ont pas conscience.
Cela fait penser à la chasse aux requins, où l'on retire seulement les ailerons et le reste à la mer.
Les cachalots, qui eux aussi sont chassés pour leur spermacétie, c'est-à-dire le blanc de baleine ou alors l'ambre, et le reste est du coup gaspillé et relâché dans la mer.
Triste sort.
On va vous parler de James Cameron du coup.
James Cameron est un réalisateur canadien âgé des 68 ans. Il est aussi explorateur.
Apparemment, il nous a encore prévu 2 films en plus pour la série Avatar. En tout cas, s'il ne meurt pas avant. Et vraiment, il est bien placé pour nous parler de la mer et des océans.
Il est la 3e personne à être allé à 11 km de profondeur dans la fosse des Mariannes.
Vous en avez marre d'écouter des informations sur l'écologie ? Vous ne souhaitez pas baisser votre empreinte carbone ? Vous trouvez que le bio est trop cher ? Vous ne comprenez toujours pas le tri des déchets ? Vous vous interrogez sur le réchauffement climatique ? Alors, ne vous inquiétez pas, écoutez de la K-pop. La K-pop est inspirée de plusieurs genres musicaux coréens, comme le trot par exemple. Ce style apparaît lors de l'occupation de la Corée du Sud par le Japon. Il mêle différentes influences musicales coréennes, japonaises et américaines. Moi je vous parle de K-pop car j'adore la Corée du Sud, je dis bien du Sud. Et j'adore leur langue, leur danse et leur chant aussi. Donc, bouger sur la K-pop, ça c'est un réchauffement.
Nous sommes allés interviewer des artisans et vendeurs dans les boutiques containers de la ZAC. Car oui, Meta n'est pas la seule association. Il y a également Gratterre, qui fait de l'agriculture urbaine, EPI, espace de partage et d'innovation, et la ferme des artisans.
On a du mal à jeter, en général. Donc on garde pendant des années, et un jour on décide de s'en débarrasser, et c'est là que j'interviens.
Donc là, on est dans la friperie. On voit que c'est du coup, comme c'est dans un conteneur, c'est une boutique un peu en longueur. Et du coup, c'est que des vêtements qui sont pas neufs, qui ont été remis un peu en circulation.
Moi, je suis Sandra et la boutique, c'est Etirga. Et Etirga, c'est un mot d'origine fan du Gabon qui veut dire le petit truc en plus. Donc, c'est le petit truc en plus qu'on remet sur le marché. C'est le petit truc en plus qu'on a, dont on n'a pas vraiment besoin, mais qu'on aime quand même.
Là, par exemple, il y a un sac en jean. On voit que c'est des anciens pantalons du coup en jean qui ont été remis en sac et c'est plutôt joli.
J'ai la chance de trouver des vêtements intacts. J'ai pas besoin de faire grand chose à part du repassage et puis enlever quelques fils, par exemple, qui pendent ou refaire un bouton. Le seul truc, c'est de les trouver et de les mettre à disposition du public.
Et justement, où est-ce que vous les trouvez, ces vêtements ?
Donc, je les trouve un peu partout. Il y a des vide-greniers, des vide-maisons, des friperies solidaires, voilà.
D'accord, merci beaucoup.
Merci à vous.
Ici, nous avons un conteneur dans lequel nous avons une boutique que nous partageons à une dizaine de créateurs.
Ceci, c'est une occupation temporaire. C'est un lieu d'expérimentation, en fait. Si nous n'étions pas là, il y aurait une zone un peu vide, ce serait un peu la terre à personne. Nous, on essaye de faire ce qu'on peut pour que ce soit joli. Entre-temps, nous, en échange, on a un lieu pour exposer notre travail et pour montrer ce qu'on fait.
Nous sommes des artisans et nous fabriquons des objets avec une éthique écologique. Et nous les vendons. Et à tour de rôle, nous venons ici vendre nos créations. Alors aujourd'hui, c'est moi qui vends. Et demain, ça peut être une autre collègue.
Et quelle est la démarche écologique que vous faites en étant ici et en vendant vos créations ?
Bah, moi, je crée des cosmétiques. Je crée des savons, par exemple. Et en créant mes savons, je fais très attention à toutes mes matières premières. Donc, je fais attention qu'elles soient biologiques, équitables, qu'elles ne soient pas polluantes à la fabrication et qu'elles soient bien biodégradables. Qu'on puisse se laver dans la nature avec mes savons et que ça ne pollue pas la nature. Et par exemple, Stefano, lui, il va créer des objets en carton, qui est aussi un matériel écologique. Donc on fait très attention à notre manière de créer et à notre manière de vendre aussi. On n'est pas sur Amazon, par exemple, tout simplement. Moi, ça fait partie de mes valeurs fondamentales. En fait, dans ma boîte, j'ai essayé d'apporter mes propres valeurs. Donc par exemple, mon mantra à moi, c'est de dire moins mais mieux. On a peu d'objets, mais le peu qu'on a doit être de bonne qualité, de bonne composition, nous servir à beaucoup de choses et ne pas abîmer le reste de la Terre. Moi, ce qui me touche, donc nous, on est au contact ici du public, mais moi, je fais plein d'autres événements et j'ai observé que la jeune génération était très sensible à l'écologie. Quand j'ai les ados qui viennent et qui amènent leurs parents sur mon stand et qui leur expliquent pourquoi c'est mieux, en fait, j'ai même pas besoin de faire ma pub parce qu'ils ont compris avant nous. Je suis hyper contente des valeurs qu'ils portent et j'aurais aimé avoir la force de porter leurs valeurs à l'époque. Je n'ai pas su le faire et je suis très fière d'eux en tout cas. Ils vivent pas la même chose que ce qu'on a vécu, mais j'ai souvent dit, j'ai grandi dans les années 90 et j'ai un truc qui me reste beaucoup en tête, c'est le fait que ma mère, pour nous faire plaisir, nous offrait ces céréales qu'on achetait en supermarché qui étaient phosphorescents. J'avais un bol, donc les céréales étaient de toutes les couleurs, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, c'était super beau. Et les violets, quand on éteignait la lumière, se voyaient dans le noir. C'est une aberration, c'est une énorme aberration. Et à l'époque, c'était génial. Et aujourd'hui, quand j'y repense et que j'en ai reparlé à ma mère, elle me dit « Oui, mais à l'époque, on mangeait pas du muesli bio. » Eh ben non, non, on s'est trompé. À un moment donné, l'humain était trop loin. Et vous êtes la génération qui savait revenir en arrière et qui savait comprendre pourquoi on ne mange pas des céréales phosphorescentes et que non, c'est pas du tout cool.
Merci beaucoup pour cette
journée à vous.
On va tous aller chercher. Hein.
Ah bah non, mais c'est pas une blague. Ça,
céréales phosphorescentes, original, hein, mais.
Bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre activité ici ?
Eh bien, je suis artiste imprimeur et j'utilise des vieilles presses d'imprimerie pour réaliser mes œuvres d'art.
Est-ce que vous préférez être ici plutôt qu'être ailleurs en ville ?
Alors, est-ce que je préfère être ici ou ailleurs ? Alors, c'est une question marrante parce qu'il s'avère que j'habite juste à côté de mon atelier. Donc, je préférerais être ici parce que je suis bien dans mon quartier.
Et avez-vous une démarche écologique ? Si oui, laquelle ?
Alors, une démarche écologique, oui, un petit peu, parce que mon utilisation des vieilles machines, je l'ai fait parce que ce sont des machines qui ne connaissent pas l'obsolescence. Alors, qu'est-ce que l'obsolescence ? Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est la capacité des choses à vieillir et à ne pas pouvoir être réutilisées. Et aujourd'hui, en fait, les objets ont plein d'obsolescence. Par exemple, un ordinateur, un téléphone, ou plein d'autres choses qui sont connectées chez toi. Au bout d'un moment, eh ben, elles ne fonctionnent plus. Je pense que tout le monde l'a remarqué. Et ces choses-là, elles se recyclent très mal. Donc ça finit à la poubelle. Eh bien moi, j'ai décidé d'utiliser des vieilles machines parce qu'elles sont que mécaniques et qu'elles ne vieillissent pas. Elles sont très solides. Et c'est une forme pour moi de responsabilité écologique de ne pas créer du déchet, en fait. Et il y a mes machines, mais aussi mes encres, mes outils, etc. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Radio Maurice, en direct.
Mais pour parler d'environnement, le Club Nature est le mieux placé. C'est pour ça que nous sommes allés les voir.
Le Club Nature du Collège existe depuis 2021 à l'initiative d'un groupe d'élèves motivés et concernés par la planète.
Vous nous connaissez peut-être grâce à l'action ramassage des déchets qui a eu lieu dans la cour l'année dernière. Nous avions d'ailleurs réalisé une collecte d'environ 7 kg de déchets en seulement une heure.
Cette année, vous allez être surpris par le nombre incroyable d'actions qui vont être menées au collège et ailleurs. Ouvrez bien vos oreilles.
La création d'un potager qui sera cultivé grâce à une boîte à graines située dans l'atrium et pollinisée par l'hôtel insecte que nous installerons dans la cour. Êtes-vous toujours attentif ?
Car il y aura aussi des affiches illustrant la lutte contre le gaspillage alimentaire à la cantine. Mais aussi
des panneaux solaires sur le toit du collège pour le rendre plus indépendant en électricité. Projet pour fin 2023, on rêve nous. Et encore
une expo sur les animaux en danger et la participation au prix éco-collégien. Vous pouvez découvrir les 4 livres en lice au CDI.
Tous ensemble pour la planète, on s'y engage.
Bien sûr, même si le dérèglement climatique est bien présent, beaucoup de personnes agissent dans le but de faire changer les choses. C'est parti pour la chronique de bonnes nouvelles.
En France, une trentaine de fruits et de légumes ne peuvent plus être emballés dans du plastique. Il faut pour ça que ces aliments ne soient pas transformés et pèsent moins de 1,5 kg. Les invendus non alimentaires, eux, ne peuvent plus être détruits. Cette mesure concerne notamment les vêtements et les produits d'hygiène. Ces produits devront être donnés ou recyclés, comme par exemple dans les friperies.
Ah oui, comme celle de la ZAC. La France n'est pas le seul pays d'Europe à agir. Depuis l'été 2022, la Finlande s'est engagée sur un projet climat-énergie qui lui permettra d'être neutre en carbone à partir de 2035 et même d'essayer, en 2040, d'avoir un bilan négatif de dioxyde de carbone, c'est-à-dire qu'il pense pouvoir absorber plus de CO2 qu'il n'en émette. Ce projet compte principalement sur les énergies renouvelables, en utilisant des éoliennes par exemple. Au niveau international, les COPs s'occupent de l'environnement. Mais qu'est-ce qu'une COP ? Les initiales signifient Conferences of Parties. Ce sont des conventions où les États signataires se réunissent afin de faire un bilan et de se fixer de nouveaux objectifs. Par exemple, il existe une COP biodiversité qui permet de parler de la protection des espèces animales et végétales.
La plus récente est la COP 15 qui a eu lieu à Montréal du 7 au 19 décembre dernier. L'État français s'y est notamment engagé à réduire de moitié l'utilisation de pesticides, à protéger 30% des aires terrestres et marines et à réduire de 50% l'introduction d'espèces exotiques et invasives.
Lors de la COP 27, une COP climat tenue au mois de novembre dernier, 24 pays et acteurs publics comme des ONG, donc des organisations non gouvernementales, décident d'arrêter de financer les projets de production et d'extraction de gaz, pétrole et autres énergies fossiles.
Du côté de la faune et de la flore marine, un grand sanctuaire va voir le jour. C'est une zone de 700 000 km² autour de 4 îles dans l'Atlantique Sud. Cette immense zone fait presque 3 fois la taille du Royaume-Uni. Dedans, la pêche et les activités d'extraction sont interdites. Ce sanctuaire sera le 4e plus grand au monde. Il permettra de protéger 10 millions d'oiseaux, dont certains menacés, et également d'autres espèces d'animaux, surtout marins.
Pour revenir à notre échelle, à Lyon, des employés de la métropole mettent en place un système pour faire et trier du compost afin de limiter le gaspillage alimentaire. Pour conclure, tout n'est pas perdu, loin de là. Nous pouvons agir et des gens le font déjà.
Alors, à vous de jouer!
Et voilà, c'est terminé pour ce premier direct de l'année sur Radio Maurice. Merci à celles et ceux qui se sont rendus disponibles à notre micro. Stanislas et les entreprises de Meta pour la ZAC, ainsi que Madame Valex. Des remerciements aussi à tous les journalistes. Eve, Laura, Clément, Soren, Chad, Maïssa, Héloïse, Paola, César, Sacha et Augustin. Des remerciements surtout à Madame Arnaud et Monsieur Cohen pour les enseignants et à Charlotte qui vient de nous apprendre les ficelles du métier tout au long de l'année. Radio Maurice, ça continue tous les mardis de 12h à 13h au CDI. On prépare un nouveau direct pour le mois d'avril et on sera ravis de vous accueillir dans notre groupe. À très bientôt.